L'Odyssée d'un voleur de pommes de Moïse Rosenbaumas, autobiographie d'un juif lituanien né en 1922, traduite du yiddish par la fille de l'auteur, est un témoignage sur la réalité foisonnante du monde juif d'Europe de l'Est avant 1945. C'est aussi un document sur l'armée rouge et le système stalinien vécu de l'intérieur. Le texte, écrit en yiddish, a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Isabelle a traduit de nombreux ouvrages du yiddish et encore tout récemment chez Kalman Levy, l'extraordinaire journal de Lai Broschmann. Nous fûmes transportés avec une forte fièvre à l'hôpital et dans un état comateux. L'hôpital en question était constitué par une baraque de planches ne comportant qu'un rez-de-chaussée où tous les malades étaient rassemblés dans une seule et unique salle d'une cinquantaine de lits. La salle était comble. Quand les 15 jours de crise aiguë furent passés, nous nous sommes réveillés avec un appétit féroce. Nous avions tout à fait perdu l'habitude de manger et même simplement de nous nourrir. À notre réveil, la sensation d'être couché dans des vrais lits avec des draps blancs, la vue des docteurs et des infirmières en blouse blanche nous firent croire que nous rêvions. Nous avions été amenés dans un palais, mais on nous donnait à manger comme à des malades et non comme à des princes, et notre estomac avait vite repris l'habitude de se remplir. Ce qu'ils nous donnaient était insuffisant et nous avions toujours faim. Ainsi, nous reprenions doucement des forces. Près de chacun des lits était placé un petit placard réservé aux affaires personnelles et aux provisions. Évidemment, les nôtres étaient vides parce que nous n'avions ni vêtements ni produits alimentaires. Les Ouzbeks y rangeaient leurs vêtements et les réserves de nourriture, car leur famille leur apportait à manger et à boire en abondance ce qu'ils avaient de mieux été destiné à leurs malades. C'est au moins un point qui plaît dans leur faveur. Signe que nos forces nous revenaient progressivement, nous étions parvenus à organiser une descente en règle pour visiter les placards des Ouzbeks. Pendant que tout le monde dormait, beaucoup de malades étaient encore en période de crise et quasiment dans le coma, revêtus de draps blancs de nos lits qui nous faisaient un étrange déguisement, nous assurâmes notre approvisionnement un peu sauvage. Quand on découvrit le poteau rose le matin, un scandale éclata. Mais aller faire sortir de l'estomac d'un affamé ce qu'il a ingéré au cours d'un second dîner si convoité. Il ne restait plus à l'administration qu'à mettre des cadenas au placard, et c'est ce qu'elle fit, mais il ne nous fallut pas trop de temps pour trouver la parade et les forcer. Retrouver des conditions de vie plus humaines nous avait rendus malins. Nous étions au moins à égalité devant la maladie. Et grâce à la prospérité des Ouzbeks, nous mangions et restaurions notre santé. Il restait à remercier et à se faire pardonner. Il est vrai qu'à nouveau, nous touchons là à la question de la morale. Je suis le premier à en convenir. Mais allez expliquer à votre estomac torturé par la faim et à votre corps malade ces délicates questions d'éthique quand c'est l'instinct de vie qui parle. D'un autre côté, les Ouzbeks nous devaient bien cette juste réparation après les traitements bestiaux qu'ils nous avaient infligés alors que nous étions affaiblis, sans résistance et coupés du reste du monde. On peut retourner ces questions d'éthique à l'infini, écrire des volumes, débattre sans parvenir à conclure. Toujours est-il que nous avons survécu et sauvé notre peau. Une fois guéris, nous n'avions qu'un seul désir, c'était de rejoindre Tachkent pour nous engager comme volontaires dans l'armée soviétique. À notre surprise, les Ouzbeks ne se firent pas prier. Bien au contraire, ils affichèrent un soulagement certain, car ils étaient contents de se débarrasser de nous. Ils nous avaient apparemment assez tourmentés. C'est avec le terrible camion de notre arrivée qu'ils nous ramenèrent à Tachkent. Là, nous nous sommes présentés au commandement militaire et avons supplié, les larmes aux yeux, que l'armée russe veuille bien nous mobiliser. Qu'on se représente la fière délégation qui venait offrir ses services au commandement militaire. Nous avions retrouvé nos hardes de clochards, nos barbes n'avaient pas été rasées depuis le début de la guerre, nos cheveux, qui n'avaient pas été davantage coupés, étaient hirsutes et notre état physique, en dépit de la rapide récupération de nos forces après le typhus, n'était évidemment pas brillant. Nous leur faisions visiblement peur, et ils devaient se dire que si c'était là la délégation de la Lituanie, ils n'avaient pas encore gagné la guerre. Ils nous examinèrent sous toutes les coutures et finirent par avoir pitié de nous. Les deux jeunes filles furent également incorporées dans la division. L'affaire était adjugée, nous étions bons pour le service. C'est ainsi que nous sommes devenus des soldats, après avoir été des réfugiés, puis des gueux et des forçats durant des mois. Sans tarder, ils nous envoyèrent sur le front au sein de la division militaire lituanienne qui avait été formée à la fin de 1941. Maintenant que nous avions revêtu les habits militaires, nous avions tout de même une autre allure. Avant notre départ, ils nous conduisirent au bain de vapeur russe, nous coupèrent les cheveux et rasèrent nos barbes. Mais surtout, ils nous donnèrent du linge propre. Il est difficile d'imaginer à quel point cette transformation nous réconforta et nous rendit notre dignité. Nous mangeons à présent 3 repas par jour, et quand bien même il ne s'agissait que de rations militaires sans aucun luxe par rapport à l'alimentation misérable que nous avions connue, c'était considérable. C'était une métamorphose qui partait de nos corps pour s'étendre à nos esprits. Une autre vie commençait. Et s'il fallait la sacrifier, nous préférions de loin mourir dans l'honneur sur le champ de bataille qu'affamés et épuisés. Nous nous sentions à présent redevenus des hommes à part entière au plein sens du terme. Notre morale avait changé du tout au tout. D'un homme, il était donc possible de faire un être insensibilisé, abruti comme une bête, de le faire souffrir, de le placer dans les situations les plus intolérables, de le battre, de l'affamer, de porter atteinte à son moral et de lui ôter sa dignité. Sa tête se vide alors, son bourreau a beau lui parler et le rudoyer, c'est à un mur qu'il s'adresse, car la victime est en quelque sorte absente. Celle-ci perd aussi ses repères et son mode habituel de réflexion. Et c'est peut-être là un des moyens de résister aux terribles conditions que j'ai décrites pour réagir grâce à une mécanique de survie qu'elle ne maîtrise pas et qui se met en place à son insu. En revanche, il suffit de nourrir l'affamé, de lui permettre d'avoir une hygiène normale pour restaurer sa dignité et sa fierté. À ce moment-là, nous ignorions évidemment tout de l'entreprise concentrationnaire de destruction à grande échelle mise sur pied par les nazis. Tous les 2 jours, le train faisait une halte. Nous étions conduits au bain de vapeur. Ceci constituait sur tout le territoire de la Russie une véritable institution. La vapeur y est diffusée à partir d'un édifice de pierre chauffé au rouge. Une estrade en bois permet de monter par palier vers le haut où la chaleur est plus intense. Là, il s'agit de transpirer jusqu'à ce que la sueur coule à flots. De temps à autre, de l'eau froide est jetée sur les pierres pour produire davantage de vapeur, mais aussi pour rafraîchir un peu l'atmosphère et la rendre plus respirable. C'était pour nous un véritable soulagement, car nos abcès commençaient à cicatriser et nos forces nous revenaient petit à petit. Notre chemin de retour fut indéniablement plus court et plus direct que celui de l'aller. Les trains militaires avaient la priorité sur tous les autres convois. Au lieu de filer vers la Sibérie comme à l'aller, nous avons pris la direction de la mer d'Aral à partir de Tashkent, puis celle de Saratov. Après de nombreux arrêts, nous arrivâmes enfin sur place. La 16e division stationna d'abord non loin de Moscou, près de Toula, à Yasnaya Polyana, où se trouve la maison de Léon Tolstoï. C'est là que l'on nous fit subir une préparation militaire avant de nous envoyer rejoindre le 249e régiment d'infanterie du côté d'Orel à la fin de 1942. Me voilà devenu fantassin, un vrai soldat avec son fusil et sa baïonnette pour le corps à corps. L'hiver était extrêmement rigoureux et passer l'hiver dans l'armée signifiait vivre dehors. Nous arrivions d'un pays où la chaleur était accablante et nous nous retrouvions par moins 30 avec de la neige jusqu'aux genoux. Heureusement, les soldats russes étaient chaudement vêtus. Nous portions la koufaïke, une veste surpiquée dont l'intérieur était doublé par une épaisse couche de coton, de même que le pantalon sous un manteau, le chinel. Avec bien entendu la chapka de fourrure sur la tête et aux pieds les bottes de feutre, les valinki. Elles étaient taillées d'une seule pièce, sans couture, dans un morceau de laine d'un centimètre d'épaisseur et montaient jusqu'aux genoux. Elles ne comportaient pas de galoche. Aussi n'offrait-elle de protection très chaude qu'en plein hiver, quand il faisait froid et sec. Mais au printemps et en automne, quand la neige commençait à fondre dans la journée et que les pieds se mouillaient, elle se mettait à geler la nuit, devenant dure comme des pierres, si par malheur on n'avait pas trouvé d'endroit pour les sécher entre-temps. L'armée rouge ne fournissait pas de chaussettes, mais des partiamki, bandes de flanelle rectangulaires qu'il nous fallait apprendre à bien enrouler autour de nos pieds. Le malheureux qui les avait mal entortillés et qui devait faire une marche de 50 km arrivait avec les pieds en sang.
Ах, война, что ж ты сделала подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли. Повзрослели они до поры, на пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб, разлуки и дым наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься, да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетника. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад.
Nun in dieser Zustand seien wir alle geworden krank auf Typhus. Man hat uns alle mal nach Wege geführt ins Spital. Hab mich kein Dost, als er rufen. Das ist gewesen ein niedriger Gebäude, nur mit einem Saal, und alle Kranken sind gelegen zusammen, ungefähr bei 50 Betten. Uns hat man gebracht mit sehr großer Hitze, Unbewusstsein. Die ersten 15 Tage, das ist die Tag von Krise, liegt man wie ein Täter. Man isst gar nicht, nur man trinkt. Mit uns hat man auch gebracht viele Usbeken, welche haben sich angestochen von uns. Also herum, als das Spital ist gewinn voll gepackt. Als man steht auf von Krise, will man sehr essen. Von dem sind wir schon lange gewinn abgewöhnt. Für uns, als wir haben sich aufgehabt und gesehen, wie wir liegen, in die weißen Betten, mit weißen Leilachern, mit den Doktoren und Krankenschwestern, sie ist das schön für uns gewinn ein Palaz. Im Spital hat man gegeben Essen, wie für Kranke. Unser Magen hat sich sehr schnell zugewöhnt zum Essen. Ob was man vielleicht geben, ist nicht gewinn genug. Bei jedem Bett ist gestanden ein Senkerle, zu halten persönliche Sachen und auch Produkte. Gewöhnlich, unsere seien gewinn ledig, weil wir haben nicht gehabt. Keine persönlichen Sachen und gewiss nicht keine Produkte. Aber bei den Usbeken ist gewinn beide Sachen überfüllt. Die Usbeken pflegen bringen für sehr Freund von den Besten und den Schönsten. Als wir haben sich gefühlt besser, pflegen wir sich unten in weißen Leilacher und ausledigen alles senkerlich, gewöhnlich. Haben wir das gemacht in Mitternacht. In der Früh pflegt der Tummel werden sehr groß. Aber gehen nicht mehr reich vom Morgen. Das ist man hat schon aufgegessen. Hat man auch aufgelegt, schließlich. Aber wir haben gefunden den Weg, wie sie zu öffnen. Wird er mir sagen, das ist nicht schön und nicht moralisch. Bin ich mit euch einstimmig. Aber geht erzählt dem Morgen und dem kranken Körper, das ist nicht moralisch. Wegen Moral kämen uns schreiben ganze Bücher. Aber ich will auch nicht verdrehen den Kopf. Als wir seinen geworden gesund, haben wir gebeten, als man soll uns schicken zurück in das Kind, weil wir wollen alle gehen freiwillig in der Armee. Nun haben sie sich gefreut, als sie seinen von uns Potter geworden und uns abgeführt zurück in das Kind. Dort sind wir gegangen in die militärische Kommandatur und sich gebeten mit Tränen in den Augen, als man soll uns mobilisieren. Es stellt sich vor, als eine Delegation geht sich Europa los, abgerissene wie Schleppers, nicht kerasierte, die Haar bewachsen, ausgemogert, als sie haben uns gegeben, gesehen, haben sie sich erschrocken. Sie haben sich getracht. Das ist das eine litwische Delegation. Nun haben sie sich gut zugeguckt auf uns und gehört auf uns Rachmones und uns gemacht für Soldaten. Und uns abgeschickt in die litwische Devise, welche hat sich gehört formiert Ende 1941. Jahr. Der Weg zurück ist gewesen gleicher, kürzer und leichter für uns. Wir sind alle gewesen jetzt ungetan in militärische Kleider, ausgebodene, abgesorene, die Haar, abrasierte kleinen Bord und die Hauptsache mit reinen Wes und gegessen dreimal am Tag. Sie ist geworden ein anderes Leben. Wir sind zurückgeworden ähnlich auf Menschen. Alle zwei Tage hat der Band sich aufgestellt. Wir fliegen gehen in Parilke. Das ist ein russisches Boot, wo man gießt Wasser auf die angebrannten Steine. Und es wird also heiße Paare am Achaie. die Geschwirn auf dem Kerperraum genommen platzen und sich verheilen. Und die Köche zum genommen kommen zurück. Also kämen von einem Menschen machen ein Untermensch, ungefühlen, Punkt war Chaie, und man kann ihn zurückbringen in den Zustand von einem Menschen. Ein Mensch darf man nicht schlagen, nicht machen verschiedene moralische Schwierigkeiten. Sie ist genug, dem Menschen auszuhungern. Und er verliert seine Würde. Die Kopf leidigt sich aus und fertig, reit zum Wand. Der Mensch reagiert nicht. Zurück sind wir gefahren viel schneller, weil die militärische Zucken haben gehabt die Priorität. Auch der Weg ist gewesen kürzere. Wir sind nicht gefahren durch Sibir wie früher beim Kommen, nur von Taschkent sind wir gefahren auf der Seite von dem Jam Ural und von dort auf Saratow. Gewöhnlich haben wir sich vielmal aufgestellt. Ich will doch nicht ausrechnen, alles steht, bis wir dann angekommen auf einen Ort, zwischen Tula und Orol, nicht weit von Moskau. Da sind wir durchgegangen, eine kleine Zugrätung, und wir hatten reingeschickt in 249. Polk vom Fußgeher. Das ist gewesen in 1942 im Jahr. Da die Fräse sind gewesen sehr groß, weil wir sind gekommen von einem heißen Land. Und da, der Winter, ist gewesen als schwerer. Ungetan sind wir gewesen gut, mit gesteppten Kufaikes, als einem langen Reckel und auch als einem Häusen, mit einer warmen Sapke und Wallenkes, gewöhnlich und Kalossen. Ich weiß nicht, was das heißt, Wallenkes. Das ist also mein Stivo. Gemacht vom Wohl, angepresst in einer harten Materie. Die Grobkeit ist 1 Zentimeter und das hält sehr warm. Gewöhnlich, kein Socken ist nicht gewinn, fragt man trocken Partiankes. Ah, ihr wisst nicht, wo das ist. Das ist ein einfacher Tichel von Flanell und man darf sich erst lernen, wie herumzuwickeln die Fuß. Dummer wickelt man schlecht darum die Fuß, reibt man um bis Blut. Die Wallenkes ist nur gut in großer Frist, aber im Frühling oder Herbst, wenn der Schnee nimmt zu gehen bei Tag und die Füße werden nass und bei Nacht nimmt Frieden, ist große Zorres. Die Wallenkes werden hart wie ein Stein und neben mein Hut nicht. Wo auszudrücken, ist nicht gut. Aber von dem starb man nicht.
Ich hab sich verliebt in ein Ding, das Scheine. Und ich kenn's